Bonjour à toutes et à tous, hors champ aujourd'hui avec Jean Hatzfeld. Jean Hatzfeld, vous êtes écrivain, romancier, auteur de nombreux textes. Il y a eu l'ère de la guerre au bord du fleuve, vous étiez un ancien reporter. Il y a eu, et cela est resté dans nos mémoires, dans le nu de la vie, récit des marais rwandais, une saison de machette, la ligne de flottaison, la stratégie des antilopes, où en est la nuit, Robert Mitchum ne revient pas. Et les deux derniers livres s'intitulent « Anglebert des collines » et un papa de sang. De tout cela, nous allons parler tout au long de cette émission. Mais je voudrais commencer par votre enfance. Comment s'est-elle passée, cette enfance ?
Famille très nombreuse. 8-9 enfants, selon les moments. Moi, au milieu, donc la place idéale, au milieu de la famille. Et toujours, soit à Madagascar, dans une grande maison, soit dans les Cévennes, enfin en Haute-Loire, dans une grande maison aussi. Donc, une enfance heureuse. Une partie du temps au soleil de Madagascar, une partie du temps dans le froid de la Haute-Loire, mais c'était très...
Quel type d'éducation ?
Eh bien, j'habitais dans des villages, toujours. Donc, mes copains étaient des gens de village, mais mon père était agrégé, enfin, était un prof. C'était les deux, quoi. C'était à la fois, je lisais Victor Hugo et je jouais au foot avec les copains, quoi. Une grande famille, donc il y a des plus grands, des plus petits. On fait les langes et le biberon des petits. On se fait engueuler par les plus grands. C'est la tribu, en fait, un peu une tribu, quoi.
Votre père vous a laissé partir quand vous avez décidé de faire la route ?
Oui. D'abord, il avait beaucoup d'enfants, donc il ne pouvait pas tous les regarder de la même façon. Enfin, il ne pouvait pas... Oui. À l'époque, je ne sais pas pourquoi, mais oui. Il a laissé partir. Je suis parti assez tard, hein, donc je devais avoir quand même 16-17 ans. Mais oui, il m'a toujours laissé faire ce que je voulais parce que, je ne sais pas, je n'étais pas quelqu'un à contrôler. Je pense que ça ne valait pas le coup. Je n'étais pas assez doué pour que ça vaille le coup de m'encourager à quoi que ce soit. Puisqu'en plus, c'était surtout le sport qui m'intéressait beaucoup et ce n'était pas vraiment sa tasse de thé. J'étais pas comme certains de mes frères et sœurs qui étaient très doués pour la musique ou très doués pour les études ou très doués pour ceci ou cela. Mais comme j'avais l'air d'être... j'étais bien sur mes deux jambes, ça allait, quoi.
Et quelle idée de faire la route et d'aller à Katmandou ? C'était à l'époque une obligation ?
Non, c'était pas vraiment une obligation, mais c'est un moment particulier puisque c'est juste après 68. Donc moi, je suis 68 art lycéen. Donc c'était vraiment le 68 des illusions, parce qu'on est quand même, à l'époque, c'était les lycéens, les premières assemblées générales, la première mixité, la découverte de Rimbaud, de tas de poètes, de Bob Dylan évidemment, etc. Et la difficulté à retomber sur ses pieds après, un petit peu. J'allais dire, c'est une des premières fuites en avant, c'est une fuite en avant, quoi. Alors on part, mais sans vraiment décider d'aller très loin. On part parce qu'on a envie de partir et qu'on n'a pas envie d'intégrer une faculté à la rentrée, après tout ce qu'on a vécu en 68. Quoi. Parce qu'il y a eu 68 et puis un peu avant. J'avais quand même été dans ce village, j'avais quand même été dans un collège un peu particulier, le collège Sévenol, où déjà on fumait des pétards, où c'était déjà mixte, ou patati patata, où on découvrait beaucoup d'auteurs américains, etc. Et 68 arrive là derrière en province, c'est une période extraordinaire, parce que 68 en province, c'était extraordinaire, surtout à cet âge-là, enfin pour les ados. Et voilà, après on vous dit, maintenant, il faut reprendre les choses sérieusement, et on n'y arrive pas, donc on s'en va.
Quand vous partez quelque part, vous partez sans a priori.
J'essaye.
Décider à vous laisser submerger. Quand vous êtes parti au Rwanda, qu'est-ce qui a créé cette décision ? On vous a demandé d'y aller, c'est vous qui avez décidé ?
Je ne sais plus exactement, Mais disons que le Rwanda, c'est un cas un petit peu particulier, puisque j'ai découvert très tard. Je n'étais pas au Rwanda au moment des tueries. Hein. J'étais, à ce moment-là, j'étais à Sarajevo. Et à Sarajevo, à l'époque, il n'y avait pas Internet. Donc, le Rwanda, les tueries du génocide me sont passées un peu au-dessus de la tête. J'ai découvert le génocide à la télévision américaine en allant couvrir la Coupe du monde de foot en 1994. C'est la vraie vérité, ça. C'est-à-dire que pendant les tueries, même si j'en avais entendu parler à Sarajevo, c'était une époque très dure du siège, etc., ça m'est passé un peu au-dessus de la tête. On me fait sortir du siège de Sarajevo pour m'aérer la tête. C'était Serge Julie qui voulait toujours que les reporters de guerre s'aèrent la tête un peu. Donc je vais à la Coupe du monde de football et à la télévision américaine, je découvre ce génocide. Là, je reviens à Paris, je vais au Rwanda. Je ne sais plus exactement comment ça se passe, parce que ma mémoire est un petit peu confuse. Mais ça n'a pas été comme de certains événements d'Europe de l'Est ou de guerre, etc., où je suis allé dès le départ parce que j'étais un peu intrigué ou parce qu'on m'envoyait tout simplement.
Alors après Robert Mitchum, vous avez décidé de revenir à ce qui est peut-être devenu votre pays, en tout cas un endroit dont vous connaissez tout. Les odeurs, les couleurs, les lumières, l'odeur de la pluie dans la terre, etc. En tout cas, quand on vous lit, Jean Hetzfeld, on a l'impression que vous êtes de là-bas, de ce village de Minyata.
Je ne suis pas du tout de là-bas. Je ne vais pas dans le pays, mais je vais dans le village. C'est-à-dire que la règle de travail depuis le début est de me contenter d'un village, de ne pas sortir de ce village. C'est même presque une règle que j'ai établie avec les autorités pour ne pas avoir d'ennuis avec elles. Un village entouré de 14 collines et je travaille toujours avec les mêmes personnages à peu près, c'est-à-dire qu'il y a deux ou trois personnes qui s'ajoutent à chaque livre ou qui se retirent quelquefois. Mais ce n'est pas le Rwanda, ce n'est pas le nord, le sud, la capitale, Kigali, etc. J'ai abandonné justement cette éthique et ce savoir-faire journalistique qui est d'équilibrer un peu les choses, d'harmoniser, d'homogénéiser, de vérifier, d'aller... J'ai abandonné cette manière, cette attitude pour me concentrer en fait sur des marées. Voilà. Il y a des marées, des gens autour, des fantômes dedans, des morts, des gens qui sont sortis vivants, d'autres qui ont couru dedans avec de l'eau, de la boue jusqu'aux genoux et une machette à la main pour tuer, des gens qui ont regardé. Et voilà, je me contente de ça. Donc en fait, c'est effectivement un lieu. Alors pour le coup, vous avez raison, c'est un lieu que je commence à connaître. Ça fait maintenant une quinzaine d'années que j'y vais régulièrement. Mais ce n'est pas chez moi pour autant. D'abord parce que je ne suis pas partie prenante de cette histoire qui est le cœur des livres, le génocide, puisque je n'étais pas menacée, je n'y étais pas, j'étais ni Tutsi ni Hutu, et que dans le génocide, on sait qu'il n'y a pas beaucoup de place pour les étrangers, pour l'extérieur. Les témoins ne sont jamais, contrairement à une guerre où les gens peuvent être partie prenante sans être du pays, là on est tout de suite exclu, il n'y a pas de place pour vous, on vient après. Et je suis en plus à Muzungu, donc un blanc voilà, qui hérite de son histoire et qui amène un peu l'histoire de son pays avec... Donc non, je ne suis pas vraiment, mais c'est vrai qu'il s'est instauré au fil des années une familiarité très très forte, de plus en plus forte, avec cet endroit, avec cette histoire et avec ces gens.
Une familiarité qui vous permet peut-être de disparaître volontairement pour pouvoir mieux comprendre les personnes qui vous entourent. En tout cas, dans Englebert des collines, qui est le portrait d'un homme que vous avez observé pendant longtemps et à qui vous donnez la parole, parce que justement, il vous parle, il est considéré par l'ensemble du village un peu comme un excentrique, mais vous, vous allez vous approcher de lui petit à petit et vous allez l'écouter. Et mieux, vous allez le faire exister. Et ce livre, c'est vraiment, nous, lecteurs, l'entendre parler.
Oui, alors là, c'est un bon exemple, justement, de la familiarité, puisque Englebert est la première personne à qui m'a adressé la parole quand je suis arrivé à Nyamata, il y a 17 ans. Donc, j'étais dans la grande rue. C'était assez... Il faisait une chaleur torride, mais les rapports étaient un petit peu froids, parce que j'étais français, parce que les gens étaient vraiment très cassés, très démolis. Pour des raisons diverses, les Hutus ils avaient peur, les Tutsis étaient rescapés, étaient vraiment abîmés et affaiblis. Et il y a quelqu'un qui m'interpelle dans la rue avec un accent marseillais à couper au couteau et qui me dit « Vous, là-bas, est-ce que vous êtes pour l'OM ou pour le Paris Saint-Germain » Et je me retourne et je vois un clochard, un clodo, en haillons, complètement à moitié bourré, tout ça, et qui me parle. Voilà, qui me parle. Et on est devenus très amis, parce que je me suis vite rendu compte que cette personne, qui était clochard, qui était très zigzagant et très éthylique, était quand même quelqu'un qui avait bénéficié de toute l'éducation jésuite de cette région, c'est-à-dire qu'il était d'un niveau en lettres et en linguistique de l'agrégation. Et que, voilà. Donc, on est devenus amis. En plus, il me reposait beaucoup parce qu'il parle très bien français, puis il parle de beaucoup de choses, il a beaucoup d'humour. Mais il n'avait jamais voulu participer à mon travail. Donc, il n'avait jamais voulu participer à mes livres. Et je m'en contentais très bien, je le regrettais, mais enfin, je comprenais cette attitude. Et puis, un jour, on était en train de boire une bière sur sa parcelle, parce qu'il a une parcelle qu'il ne cultive pas parce qu'il a la flemme, il est très feignant. On buvait une bière comme ça et je lui ai fait parler de son enfance. Et c'est en parlant de son enfance, en fait, je n'avais pas compris que tant que je lui parlerais de génocide, de machette, de peur, de Dieu, etc., il se fermerait, il n'avait pas envie d'en parler, mais que le jour où je lui ferais parler, je tirerais le fil en partant de son enfance, de sa petite enfance, de petit gamin qui avait ses 8 vaches et qui a grandi comme ça, dans un univers tout si de peur, etc., ça allait marcher. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. Et donc, le livre est venu comme ça, d'un coup, il y a 3 ans, après 15 ans de silence, à cause justement de cette familiarité qui a pu se tisser, cette relation qui a pu se tisser.
Je parle sans méfiance, je ne retiens pas mes vérités, je chante ce qui me plaît. Qui va m'en empêcher? Je taquine l'ancien sous-préfet, je parle avec des professeurs, les chauffeurs me saluent, les garçons de corvée derrière leur brouette aussi. Au marché, les cultivatrices me hèlent, je les connais par leur nom, les marchandes de patates veulent que je les blague. Tu vois que le marchand de tabac traditionnel me tend la pipe, je parle avec les costumiers, les petits garçons, avec tout le monde sans gêne, sauf de politique. Voilà Englebert, à travers votre écriture, Jean Hatzfeld, parce que je crois que au fil du temps, et ça s'entend encore plus, je dis ça s'entend parce que votre écriture est très sonore et qu'on a envie de le dire, votre texte à voix haute. Vous avez inventé un genre de littérature, et avec un papa de sang aussi, peut-être que vous allez encore plus loin, mais comment travaillez-vous ce que vous entendez, ce que vous recueillez? Est-ce que vous l'enregistrez au magnétophone? Est-ce que ça rentre corporellement à l'intérieur de vous? Et ensuite, quel est le travail d'écriture pour nous, lecteurs, nous le restituer?
Alors, c'est un énorme travail, hein, et je dis très franchement maintenant, je ne disais peut-être pas au début, mais j'ose le dire maintenant que s'il n'y avait pas eu cette beauté de la langue, il est probable que j'aurais décroché depuis longtemps de cette histoire. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de beauté dans la pensée des gens, pour certains, et dans la langue, qui m'ont vraiment incité à continuer parce que je suis très, très séduit depuis le premier jour par cette langue. Donc, c'est une langue orale. Il y a des gens qui parlent directement en français, d'autres qui parlent en kinyarwanda, qui sont traduits. C'est une langue orale pleine de métaphores, pleine de poésie, où se mêlent aussi des belgismes, si je puis dire, un peu 19e siècle, ne fût-ce que par les prénoms des gens, Englebert, Ignace, Fulgence, etc. Comment je travaille? J'ai un peu affiné ma manière au fil des bouquins. Je travaille énormément en amont. Je suis un fou de travail en amont, c'est-à-dire que je lis beaucoup de livres sur la Shoah, beaucoup de livres sur les rescapés, les tueurs, la mémoire grise, etc. Je m'en suis beaucoup servi encore pour les jeunes en lisant des livres sur les enfants de rescapés, sur les enfants tueurs, etc. Donc, je travaille beaucoup les questions. C'est très sophistiqué. Je pars avec des livres de questions. C'est très précis. Et puis, j'enregistre. Donc, j'enregistre intégralement et je retranscris intégralement. Et ensuite vient un travail qui s'apparente peut-être plus à un travail de cinéma, c'est-à-dire de monteur, que d'écrivain. C'est-à-dire que vient à un moment donné, c'est à peu près à mi-séjour, vient l'idée du bouquin. C'est-à-dire un peu comment construire ce bouquin, parce que tous ces bouquins ont été construits assez différemment. Dans Le Nu de la Vie, je respecte les monologues, donc c'est comme ça. Dans Une saison de machette, au contraire, j'ai voulu couper ces gens-là par irrespect pour eux, c'est-à-dire comme ils avaient beaucoup coupé, je ne pouvais pas les respecter. Et donc, j'ai construit par thème, des thématiques, etc. Donc, Englebert, justement, à cause de son histoire, c'est tout d'un d'un trait, quoi. C'est, voilà,
c'est comme un morceau de jazz.
Voilà, c'est comme un morceau de jazz, parce que c'est comme ça que ça s'est passé. Ça s'est passé en 3 jours entre nous. Et donc, le livre le retranscrit c'est de cette façon-là. Les jeunes, c'est un peu différent, etc. Et donc, ensuite, j'ai mes retranscriptions, j'ai des crayons de couleur, et je souligne souvent par thématique, donc la peur, la religion, les parents, le souvenir, voilà, donc je souligne selon sujet, parce que c'est beaucoup, hein, j'ai beaucoup, 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 en fait, j'ai l'équivalent peut-être de 10 à 30 livres qui vont devenir un, donc en fait j'enlève beaucoup. Toutes les phrases qui sont écrites dans les livres ont été prononcées. Mais évidemment, elles n'ont pas été prononcées dans cet ordre. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui m'a, voilà, comme Sandra, Englebert, etc., d'un trait m'a... Je dis ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus sur mes traces. Donc des gens de radio, des gens de télévision, ou même des gens comme ceux d'associations, et qui ont essayé de rencontrer ces personnages, qui allaient voir la petite Jeannette, et qui disaient « Jeannette, est-ce que tu peux nous parler de ta maman comment ?» Et Jeannette, évidemment, se taisait, ou elle bredouillait, parce que, évidemment, que Jeannette n'allait pas dire...
C'est pas des machines à récits.
Voilà, ce n'est pas des machines à récits. Donc, il y a beaucoup, moi, quand j'écoute mes enregistrements, il y a beaucoup aussi de digressions. On parle des enfants, on parle des poules, on parle de la pluie qui tarde, on parle de beaucoup de choses, quoi. Et puis, quelquefois, je suis capable de poser, parce que je suis quand même très têtu, capable de poser 50 fois la même question. Donc, voilà. Et après, donc, vient ce travail de délagage et de coupe.
Vous vous coupez vous-même.
Voilà. Je coupe beaucoup.
Alors, vous êtes quoi ? Un transmetteur ? Une chambre d'écho ? Un mémorialiste ?
Non, je ne suis pas un mémorialiste. Je suis d'abord quelqu'un qui pose les questions, donc qui écoute. Et je suis quelqu'un qui écrit quelque chose parce que je fais, si vous voulez, après quand même, l'idée directrice va être le livre, uniquement le livre. C'est-à-dire que c'est assez irrespectueux de dire ça, pas aux personnages, mais aux personnes. Mais disons que la priorité de toute priorité, ça va être le livre. Faire le livre, c'est-à-dire construire un petit univers dans lequel je vais emmener un lecteur. Donc, la question ne sera plus celle du lecteur, ne sera plus celle des gens, ne sera plus moi, ce sera le livre. Donc, je
mais vais c'est quoi de... un livre ? C'est un livre de... C'est un livre de vous, signé de vous, mais c'est un livre de...
Oui, 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 mais si vous voulez, c'est un peu le cas aussi de Patrick Modiano, hein, c'est aussi un livre de ses fantômes et de ses amis d'adolescence et de ses peurs, etc. Et c'est pareil de Marguerite Duras, autant d'auteurs auxquels je me compare pas, mais je veux dire, on sait bien que Faulkner a écrit à partir d'un journal, un journal quotidien d'un oncle, etc., sur cette petite ville de je sais plus où. Donc, vous voyez, on s'appuie toujours sur une réalité qui est, voilà.
La forme est de plus en plus importante à l'intérieur de votre travail, Jean Hetzfeld. Et dans le dernier, Papa de sang, où je trouve que vous continuez à inventer un genre littéraire, mais vous allez encore plus loin, puisque vous vous affrontez à cette thématique des survivants. Qu'est-ce que ça veut dire d'être le fils d'un assassin ou le fils de quelqu'un qui a été assassiné, ces personnes vivant dans le même village ? Habitant dans la même rue, ayant le même âge, et sont condamnés, si j'ose dire, à vivre ensemble. Et là, il y a une sorte de montage alterné, où vous nous faites découvrir à nous lecteurs ce que ça veut dire d'être un fils de détenu, un fils d'assassin qui est encore vivant, un fils de quelqu'un qui est mort. Et là, vous vous mettez à la place de qui ? Vous vous mettez en tant que gardien des mémoires ou
Non, je me mets en tant que quelqu'un qui passe et qui... Si vous voulez, en fait, je ne me pose pas autant de questions que cela. Ça s'est passé
Vous nous permettez d'en poser,
Mais
en vous lisant.
Je pense que beaucoup d'artistes, beaucoup d'écrivains sont surpris par les questions que suscitent leurs livres qui ne se sont pas posées eux-mêmes, je pense. Je ne me prends pas pour un grand artiste, un grand écrivain, mais quelquefois, je suis un peu surpris parce qu'en fait, ça s'est passé beaucoup plus naturellement pour moi. Je travaille pendant 15 ans dans un village avec des parents, avec des gens. On fait 3 livres, 4 livres. Et puis, je vois bien ces enfants grandir. Parce que moi, la petite Sandra, elle avait 2 ans quand je suis arrivé. Elle en a 19 maintenant, elle avait 2 ans. Donc, je les ai vus grandir. Et ça me paraissait évident qu'un jour, je me poserais la question de comment elle a fait pour vivre avec ça, avec sa maman Edith, qui est devenue bigote, avec son papa qui est mort, avec et Fabiola, dont le père, je connais bien le père, parce qu'il est en prison depuis le début, parce que c'était le grand chef Interamoué, et cette Fabiola qui est gentille comme tout, qui est jolie comme un cœur, et qui a un papa qui est, depuis 16 ans maintenant, en prison, comment elle vit avec cela, avec les rumeurs, avec les regards, etc. Donc, à un moment donné, voilà, ce que je fais, c'est, comme je disais tout à l'heure, je travaille beaucoup en amont, ça, c'est... Donc, j'ai beaucoup travaillé et je suis allé voir Fabiola et je lui ai demandé. J'ai dit, Fabiola, est-ce que... Voilà. Et là, j'ai été très surpris. J'ai été très surpris parce qu'ils n'ont pas du tout réagi comme je pensais. C'est-à-dire que je pensais qu'ils parleraient assez facilement d'eux, assez difficilement du génocide et pas du tout de leurs parents. Et c'est exactement le contraire qui s'est passé. Ils ont eu, comme souvent les ados d'ailleurs, hein, parce qu'ils sont ados comme tous les ados, beaucoup de difficultés à parler d'eux-mêmes. Le génocide, c'était une banalité sans grand intérêt. Et dès qu'ils ont commencé à parler de leurs parents, c'était extraordinaire. Et je me suis rendu compte qu'en fait, une jeune fille comme Sandra, par exemple, c'est une fille à qui on n'avait jamais demandé, elle a 19 ans maintenant, à qui on n'avait jamais posé la question de savoir ce qu'elle pensait de son papa. Parce que c'était honteux. Donc on l'a acceptée comme la fille du tueur, on lui faisait pas payer le prix d'ailleurs, enfin bien que un peu, mais on lui avait jamais dit qu'est-ce que tu penses de ton papa, comment tu vois ton papa, est-ce que tu aimes ton papa, comment tu définirais ton papa, etc. On lui avait jamais posé cette question, pas plus que Jean-Pierre avec Alphonse, pas plus que... Et donc, là, ils se sont mis à parler et finalement, je pense que j'étais parti l'idée de départ de faire un peu un livre sur les enfants et qu'est-ce que c'est que l'héritage. Et que c'est devenu petit à petit, sans que je m'en rende compte, peut-être un livre sur qu'est-ce que c'est qu'un papa et qu'est-ce que c'est qu'une maman. C'est-à-dire tout simplement qu'est-ce que c'est qu'un parent.
Tout le monde est gay, tout le monde rit, tout le monde fait semblant. Mais la mélancolie, elle est bien là quand même.
Elle est là, elle est d'une profondeur que je n'aurais pas pu imaginer, même si je les voyais grandir. À quel point ces gens-là sont marqués.
Et ça a été... Mais quel courage, quel courage.
Oui, quel courage.
C'est une leçon de courage aussi, voilà. Ce bouquin.
C'est beaucoup de courage et c'est beaucoup de blocage aussi, parce que quand même ces jeunes, à un moment donné, quand on pose la question de l'amour, qui est quand même ce qui est le plus important à cet âge, et qu'on leur demande, est-ce que vous envisagez de tomber amoureuse ou amoureux de quelqu'un de l'autre ethnie, ils répondent systématiquement non. Non, il y en a, à part Sandra qui est un petit peu malicieuse et qui dit à un moment donné, là, si l'amour se cachait, peut-être que je ne l'abandonnerai pas, mon fiancé, c'est-à-dire si je l'aimais avant de savoir qui il est, mais sinon ils sont tous... Et c'est quand même quelque chose d'extraordinaire de penser qu'à 16 ans pour la petite Immaculée ou à 23 ans pour Fabrice, ils n'envisagent pas l'amour, une histoire amoureuse avec quelqu'un, un jeune de l'autre ethnie qui pourtant n'a rien fait, c'est-à-dire qu'il n'est que le fils ou la fille d'eux. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire.
Ça veut dire que ça peut recommencer.
Ça veut dire que il ne faut pas sous-estimer les blessures d'un génocide, oui. Même si les apparences sont celles de la cohabitation, même si on les voit, tous ces jeunes, danser ensemble, même si on les voit faire des devoirs ensemble à la sortie de l'école, etc., il ne faut pas sous-estimer ça. La peur existe, la méfiance existe. La jeune Immaculée dit à un moment donné, elle parle de la vengeance, elle dit à un moment donné, moi, quelquefois, j'avais envie de tuer celui qui avait fait autant de mal à ma maman. Il y en a qui se rappellent d'une scène d'exécution et qui pense qu'il n'y en avait pas assez, c'est quand même, oui, c'est très profond, très dur et voilà.
Que peuvent faire ces jeunes à qui vous donnez la parole et existence ? Parce qu'effectivement, ceux qui appartiennent à une ethnie qui ont été massacrés parce qu'ils appartenaient à cette ethnie gardent non pas un esprit de vengeance, mais en tout cas un esprit d'appartenance à cette ethnie. Quant aux autres, ils appartiennent aussi, peut-être pas avec orgueil, mais ils ne se désavouent pas de cette ethnie qui fut meurtrière. Donc, quelle possibilité leur est donnée ?
Je ne sais pas. Ce qui est un peu dramatique, si vous voulez, là, vous venez d'aborder un sujet sensible, qui est l'histoire familiale. Ils n'ont pas la même histoire familiale. Hein. On sait que dans les familles Tutsi, l'histoire est assez simplement racontée, parce qu'il n'y a pas de honte. Donc on dit, voilà comment ton papa a été tué, pourquoi tes grands-parents ne sont pas là, voilà qu'est-ce que c'est que notre histoire Tutsi, pourquoi on a été pourchassés, comment on a vécu en 1994, alors que l'histoire est totalement aveugle chez les Hutus, ou quand le gamin de 7 temps. Il dit pourquoi papa n'est pas là. On lui dit papa est en voyage d'affaires, grosso modo. J'exagère un peu, mais c'est un petit peu ça qui se passe. Et donc, ils n'héritent pas de la même histoire familiale. Et donc, déjà, ils ne peuvent pas se parler de ça, puisqu'ils ils n'ont pas vécu la même histoire, ayant vécu à 50 mètres les uns les autres. Donc, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a la force de la vie, quand même, va permettre de surmonter des tas de choses. Mais j'ai quand même été surpris par la profondeur des blessures et des peurs.
Alors, au Rwanda, il y a eu l'invention d'un système et d'une possibilité, d'un système juridique et d'une possibilité de se parler avec les Gacaca. Mais maintenant, depuis 2006, je crois, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de possibilité de se parler. C'est vous qui les faites parler.
Je pense que c'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai pu faire ces livres. C'est-à-dire que j'étais la personne... Souvent, ils parlent beaucoup de cela, mais ils en parlent ensemble. C'est un petit peu comme des rescapés juifs qui se retrouvent dans un kibboutz en Israël et qui, pendant 20 ans, racontent un peu la même chose entre eux. Là, sans vouloir être péjoratif, ils radotaient un petit peu. C'était un peu un disque rayé dans les familles Hutu comme dans les familles Tutsi. Et moi, je venais avec des questions nouvelles, justement, sur comment est ton papa, qu'est-ce que ça veut dire qu'avoir comme papa quelqu'un qui vous a fait le don de ce qu'il y a de plus précieux sur Terre, la vie, qui à la fois a tué à s'en casser les bras, comment on vit avec ça, ou comment on vit avec Dieu, ou comment on vit... Donc, ces questions, souvent, c'était des questions qui étaient à moitié posées chez eux, pas formulées vraiment. Et moi, je leur ai permis de formuler un peu ces questions et un peu les réponses. Et je pense que c'est ça qui les a un petit peu attirés chez moi. C'est-à-dire que j'empêchais un peu le disque de tourner en rond. J'avais de nouvelles questions. Quelquefois, je brisais un peu l'isolement, parce que des gens peuvent penser qu'ils sont les seuls à penser ça, et qu'on leur dit, mais non, mais vous savez, c'est à côté, ils pensent la même chose. Enfin, justement, sur la vengeance, quand je dis à Immaculée, mais c'est pas si étonnant que ça, elle me dit, pourquoi ? Ben, je lui dis, ben, tu sais, moi, j'ai parlé avec Sandra, elle pense un peu la même chose que toi. Ah bon ? Bon, parce que c'est un peu tabou de parler de ça, etc. Donc effectivement, je pense que je suis quelqu'un qui, avec ses questions et les réponses qu'il apporte, parce que je fais des allers-retours, donc quelquefois, leur permet peut-être de formuler un peu mieux ce qu'ils ont dans la tête, quelquefois.
Votre livre, Jean Hetzfeld, se termine par le portrait de Jean-Pierre, qui a 19 ans, et voici les dernières phrases de ce livre et de Jean-Pierre. « Fils d'un ancien tueur, c'est quand même un peu fâchant. Le cœur croise le soupçon. Ça freine l'amour et l'intimité entre des personnes de notre âge. » Alors, ça, c'est la fin du bouquin. On referme le bouquin. On se dit que ces enfants qui ont maintenant 19-20 ans, ils vont avoir des enfants. Qu'est-ce qu'ils vont transmettre à leurs propres enfants ?
Je pense qu'ils vont faire ce qu'ont fait leurs parents. C'est-à-dire que dans les familles Tutsi, ils vont bien raconter. Dans les familles Hutu, ils vont pas raconter. À l'exception de la jeune Nadine qui, elle, étant née d'un viol, ne va rien raconter. C'est-à-dire qu'il y aura des petits-enfants qui auront une histoire à peu près précise et des petits-enfants qui auront une histoire totalement manipulée. Et ça va continuer.
Ben merci beaucoup, Jean Hetzfeld.
C'est moi qui vous remercie.
Donc je rappelle que les deux derniers livres, c'est « Englebert des collines » et « Un papa de sang » aux éditions Gallimard. Merci à Élodie Royer, Corinne Amar, Julien Rosa, Cédric Châtelus, Anne Kobilac, Didier Lagarde. Vous écoutez France Culture.